La végétation, c'est, on appelait ça la ligne verte. C'était tellement abandonné que la végétation a poussé dans la pierre. Ce paysage-là, c'est celui que moi j'ai connu, puisque je suis né 2 ans, 3 ans avant le début de la guerre, et je suis parti en France à 18 ans, donc 15 ans plus tard. Et donc, pour moi, c'est ça que je connaissais. Ça, c'est le paysage aujourd'hui. Ça, c'est encore c'est une photo d'un photographe italien. Pareil, c'est 1990. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, par exemple, c'était une voie de passage. Aujourd'hui, c'est... Mais malheureusement, j'ai pas trouvé de photos. Ça ressemble plus du tout à ça, en fait. Donc, la raison pour laquelle j'éprouve aujourd'hui la nécessité d'écrire et de nommer les lieux où s'est produite la guerre, c'est que précisément la reconfiguration de la ville tend à effacer les traces mêmes de la guerre. C'est-à-dire que au fil des années, quand je retourne, il y a de moins en moins de traces. Il y a encore des immeubles, on voit des traces de balles ou de rafistolage, mais globalement, la tendance, il y a un rabotage, une reconfiguration complète de la guerre. Donc c'est une expérience historique de 20 ans qui disparaît. C'est un tout petit peu la même chose à Sarajevo, où j'étais l'année dernière. Et si on se balade dans le centre de Sarajevo, il n'y a quasiment plus du tout de traces. Alors qu'il y a des... Par exemple, la bibliothèque de Sarajevo a brûlé entièrement. Elle a été reconstruite à l'identique. Il y a certaines façades austro-hongroises qui, pareil, ont été reconstruites à l'identique. Donc ça pose une question fondamentale qui est peut-être la fonction conservatrice de la littérature. C'est-à-dire, en écrivant sur un paysage qui n'existe quasiment plus aujourd'hui dans le réel, je permets peut-être à ce paysage de rester. En tout cas pour moi. Il y a aussi que une des raisons pour lesquelles on a entièrement reconfiguré le centre-ville de Beyrouth et même toute la ville est double. Il y a deux raisons en réalité. La première, c'est que c'est une opération financière gigantesque. D'ailleurs, je pense que tout le Moyen-Orient est une immense opération immobilière. Ce qui va se passer en Syrie, ça va être ça. Les entreprises vont se battre pour reconstruire la Syrie. C'est tellement incontrôlable maintenant, au Liban en tout cas, que non seulement on reconstruit ce qui a été détruit ou endommagé par la guerre, mais on en vient à détruire le patrimoine lui-même. C'est-à-dire les vieilles maisons libanaises, d'architecture libanaise, qui héritaient un peu du style ottoman, voire du style colonial, tendent elles-mêmes à être détruites, pour construire pour faire des opérations immobilières en construisant des tours, etc. Donc le pays est en train de changer à une vitesse assez incroyable, à la fois en effaçant les traces de la guerre et même du patrimoine. Donc c'est comme si sur une ville qui est millénaire, dont on dit qu'elle a été 7 fois détruite, on est en train de construire l'équivalent de Dubaï, qui est une ville bâtie sur le désert. Il y a enfin une raison politique à ça, c'est qu'à la fin de la guerre, les responsables politiques qui l'ont faite se sont auto-amnistiés en disant bon bah tout est pardonné, et depuis il y a une chape de plomb en fait sur le récit de la guerre, dont un des signes les plus manifestes est que dans les manuels scolaires des élèves libanais, les manuels s'arrêtent à 75, date du début de la guerre. Donc, il n'y a pas de récit d'histoire, disons, de production historique commune, mais une infinité de mémoires conflictuelles. Il y a enfin une dernière raison qui m'a poussé à nommer, c'est que il y a une espèce d'abondance maintenant d'archives. Au moment où j'ai commencé à écrire, peut-être Google n'existait pas encore, venait de démarrer, donc l'accès à cette image par exemple était impossible, Et donc, je ne pouvais que me reposer sur ma mémoire qui, évidemment, tendanciellement, va vers l'oubli. Donc, la découverte de tout un pan d'archives photographiques et documentaires, évidemment, me force d'une certaine façon à l'utiliser pour pouvoir écrire cette guerre-là. Donc, je vais terminer juste. Peut-être un dernier mot sur le projet que je suis en train de faire aujourd'hui. En fait, en 2012, je suis parti à Beyrouth avec une bourse de la mission Stendhal pour écrire un livre sur un citoyen allemand d'origine libanaise qui a été enlevé par la CIA en 2004 dans le cadre d'un programme de lutte contre le terrorisme totalement illégal. Et qui a en fait touché à peu près 1000 personnes. Ce type-là avait l'inconvénient d'avoir un homonyme recherché par la CIA parce que combattant d'Al-Qaïda. Donc ils l'ont kidnappé à la frontière albanaise et le type a disparu pendant 6 mois. Sa femme ne savait pas où il était. Évidemment, il y a des complicités des États européens qui savaient qu'il y avait des prisons secrètes, notamment en Pologne. Enfin bref. Donc j'ai appris par la suite que cet homme avait vécu dans une ville du nord du Liban qui s'appelle Tripoli, et j'avais eu une bourse pour aller un tout petit peu enquêter sur lui, sur sa jeunesse, à l'époque où il était encore au Liban. L'été 2012 était l'été où la révolution syrienne est entrée dans la guerre, est devenue une guerre civile, où elle menaçait de déborder progressivement sur le Liban. Donc le climat était assez tendu, et l'ambassade française m'a dit « Vous n'avez pas le droit d'aller à Tripoli. » Et je voulais aller aussi dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila. Aussi, on m'a dit « Tu ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. » Et évidemment, j'étais soulagé presque de ne pas y aller. Mais au cours de ce séjour, j'ai redécouvert, parce que je l'avais vu une première fois, mais je l'avais vite écarté, un fait divers qui a eu lieu en 2010, dans un village du sud du Liban, un village à majorité sunnite, ce qui est très rare, parce que les sunnites habitent les côtes, en général, évidemment. Le fait divers est assez dur, donc mais je suis obligé d'en parler. En fait, c'est un travailleur égyptien qui travaillait dans une boucherie, dans ce village, qui a commis ou été accusé de commettre le meurtre de deux enfants et de leurs parents, et de leurs grands-parents. Le type s'enfuit. La police finit par l'attraper. Et pour une raison très étrange, la police décide de faire une reconstitution du crime le jour même. Évidemment, le village apprend que le type est là. Donc la foule se masse autour de la fourgonnette. Ils attrapent le travailleur égyptien et évidemment ils le tabassent. Ils le déshabillent, ils le lynchent, ils finissent. Les policiers, à un moment, arrivent à l'extirper de la foule, à l'emmener à l'hôpital. La foule suit la police, prend le type de l'hôpital et le ramène pour continuer de le tabasser. Bref, c'est un lâchage en bonne et due forme. Et l'homme finit pendu avec un croc de boucher, sur un pylône. Évidemment, il y a une foule qui filme et qui applaudit. Enfin, et ça a fait en fait une dépêche AFP, le monde entier en fait a eu vent de cette histoire-là. Quoi. Évidemment, là, en écoutant ce crime, je ne pouvais pas ne pas penser à la guerre civile. Parce que le degré de violence expiatoire m'a saisi, et parce que dans la rhétorique de la guerre civile, que ce soit dans ces premières années comme dans ces dernières années, il y a l'idée de purification ethnique, il y a l'idée de bouc émissaire, il y a l'idée de c'est un étranger donc il faut s'en débarrasser, etc. Mais ce qui m'a décidé réellement à écrire à enquêter, ou en tout cas essayer d'enquêter sur ce fait divers, c'est que j'ai appris qu'une fois qu'ils ont détaché le corps du lynché, ils l'ont accroché à l'arrière d'une voiture. Ils ont circulé avec son cadavre dans les rues du village. Et cette chose-là, faire cette chose, c'était une tradition de la guerre civile. C'est-à-dire les miliciens, quand ils avaient abattu un ennemi, prenaient son corps, l'accrochaient à une camionnette et roulaient dans le quartier pour exhiber son corps. Et donc je me suis dit, il y a une trop grande proximité d'image entre ce lyncher et la guerre civile pour ne pas essayer d'écrire de manière frontale à la fois ce que moi j'ai connu de la guerre civile, pas la guerre civile en général, mais juste ce que moi je peux prétendre avoir vécu, avec toutes les imperfections, les oublis que cela comprend, et en même temps d'essayer de raconter à la fois la trajectoire de cet Égyptien, cet immigré, et la manière dont il a été tué. Et pour la petite anecdote, pour le coup, moi j'ai immédiatement pensé à une forme de racisme, en me disant bah, c'est parce que c'est un travailleur égyptien, donc la guerre civile, donc l'étranger. Et en réalité, aux dernières nouvelles, mais les versions changent constamment, en fait c'était un crime crapuleux. Donc il n'avait absolument rien à voir. Et le village l'a lynché non pas parce que c'était un Égyptien, mais parce que il était de mèche avec une femme infidèle dans le village. Enfin bref, ça n'avait rien à voir avec le... Mais c'est pas pour autant que ça invalide l'image même de son corps lynché et ensuite traîné dans le village. Pour l'anecdote, j'ai été... cette année, j'ai pas pu y aller parce qu'il y a eu encore des tensions, mais l'année dernière, j'ai voulu aller dans ce village, qui se trouve donc à peut-être une trentaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Et j'étais avec ma compagne et un couple d'amis très proches. Et j'ai commencé à filmer, bien sûr discrètement, parce qu'on était en voiture. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait du village, évidemment, on pensait tous aux images du lynchage, ou en tout cas à la réputation de ce village.